problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
RMC. C'est la façon dont on a joué ce match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, François Pinet.
De retour dans l'After, 23h02, merci à vous d'être avec nous ce 23 décembre. On vous souhaite à tous, évidemment, et à toutes des belles fêtes de Noël. On continue de parler, évidemment, de notre Tour d'Europe, avec toujours Jonathan McCarthy, Damien Perinel et nos drôles de dames, celles qui restent, Paulo Breitner pour l'Allemagne et Julia Laurence pour l'Angleterre. Dans un instant, on parlera de l'Angleterre d'ailleurs. Il y aura aussi un petit quiz. J'espère que vous avez révisé votre première partie de saison 2019-2020. Et puis, d'abord, on va parler de la Bundesliga avec toi, Paulo. Tu attends depuis tout à l'heure. Il est temps quand même que tout le monde parte en vacances en Allemagne, hein, notamment. Et j'aimerais que tu commences par ça, le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, puisque ça intéresse les supporters du PSG, Dortmund, battu par Hoffenheim ce week-end 2-1.
Bah écoute, défaite inutile, une fois de plus, j'ai envie de dire, un nombre incalculable de points perdus depuis le début du championnat, ce qui fait dire d'ailleurs à Lucien Favre qu'il parle de stupidité quand même, hein. C'est-à-dire qu'il dit on tire lorsqu'il faut faire des centres et on centre lorsqu'il faut faire des tirs, et sa conférence de presse, c'est la première fois vraiment que j'ai vu Lucien Favre abattu. Il savait plus, il n'y a pas d'explication, parce que encore une fois, tout le monde en Allemagne, enfin en tout cas une certaine partie des personnes tombent sur Lucien Favre, mais il n'y peut rien lorsque tu vois la façon dont Dortmund domine la première période, ils ouvrent le score, etc. On se dit qu'il va y avoir 2-3-0, et puis c'est un très bon résultat, et on reste dans la course pour le titre. Et puis finalement, cette équipe en seconde mi-temps s'écroule à nouveau. Et ça se voyait, si tu veux. Tu voyais l'équipe Dortmund qui commençait à avoir peur, parce qu'ils ont été incapables de mettre le 2-0, parce qu'ils ont été incapables, en plus, j'ai presque envie de dire, de mettre le 3-0, et ça se sentait que Hoffenheim, sur une action presque anodine, 1-1, et puis ensuite 2-1, et puis tu rentres au vestiaire, t'as perdu le match, tu ne sais pas pourquoi. C'est comme ça depuis le début de la saison. Sur le on a eu une semaine anglaise, là, donc trois matchs à la suite, ils ont tout simplement perdu 5 points. Rappelez-vous le match contre Leipzig où ils dominent de la tête et des épaules, notamment en première mi-temps, et ben ça fait 5 points de perdu en deux rencontres, et vous vous retrouvez avec un Dortmund et ben qui n'est plus directement un candidat au titre, en tout cas qui n'a plus le droit à l'erreur. Et le problème, c'est que ça joue bien, c'est-à-dire qu'il y a des phases de jeu qui sont assez extraordinaires, et puis il y a des moments, il y a cette fébrilité qu'on n'arrive pas à expliqué. En plus, vous avez vu que certains joueurs se sont blessés, mais les infos qu'on a quand même, ils vont pouvoir partir en stage au mois de janvier, donc ils sont logiquement opérationnels pour la rencontre contre le PSG. Mais le problème, encore une fois, moi, la dernière fois que je parlais du Borussia Dortmund, je parlais du Borussia Janus, parce qu'il y a deux visages, c'est complètement fou, c'est tout est blanc ou tout est noir, c'est assez difficile à expliquer, parce que franchement, l'équipe est talentueuse, et ça, c'est ce qu'on reproche un petit peu en fait à Lucien Favre.
Favre n'est pas menacé pour il sera là sur le banc contre le PSG ou
il y a toujours une campagne de presse contre lui. Maintenant, quand je regarde ce que fait Lucien Favre depuis 71 matchs, il est maintenant à la tête du Borussia. Il a quand même plus de 2 points de moyenne. Ce qui est pas neutre, ce qui est sûr, c'est qu'il paye toujours le titre perdu l'année dernière en 2019 en Bundesliga. Là, c'est compliqué. L'autre problème qu'il y a, c'est qu'il a de plus en plus, officiellement, pas de problème d'effectif, mais Paco Alcácer ne joue plus. Il fait le choix, par exemple, contre Hoffenheim de faire entrer Mario Götze, qui était quasiment absent depuis le début de saison. Il marque le but, donc tu peux pas lui reprocher son coaching. Or, moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais pourquoi on fait pas jouer Paco Alcácer, etc. Il a quelques blessés qui fait qu'il doit compenser. Il aime pas, on le sait, les vrais numéros 9. Le Lucien Favre est plutôt des adeptes des 9,5. C'est pour ça que, lorsque j'entends des noms qui circulent ou des gabarits très plus d'1m90 qui circulent du côté de Dortmund, c'est mal connaître, Lucien Favre qui n'a jamais utilisé ce type de d'attaquant. Donc c'est pas qu'il est menacé, c'est qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de lui. Ça veut pas dire qu'il va pas continuer jusqu'à la fin de la saison, mais c'est compliqué. C'est sûr que voilà, c'est pas évident.
Pourtant il est quand même revenu sur je trouve qu'il s'est bien adapté, parce qu'il est revenu sur un 3-4-3. Et, et comme tu dis,
il n'est pas revenu. C'est la première fois de sa vie qu'il fait ça.
Mais je veux dire, par rapport à Dortmund, parce que quand tu vois le match contre Leipzig, franchement, mais en fait, il se suicide, quoi. Les erreurs individuelles, mais ensuite, il ne sanctionne pas.
Il jouait pas avec Pléa à Nice en 9.
Mais Pléa, c'est un 1m80, 1m85. Pléa, c'est pas, ça mange pas les gros gabarits. C'est, j'entends que Marcus Thuram aurait été contacté
par Borussia Dortmund. Ouais, c'est pas pareil,
parce que j'entends qu'à Haaland, c'est pas le même gabarit. Je veux dire, là, c'est un vrai problème parce que ça veut dire, si, par exemple, Borussia Dortmund faisait le Norvégien, je suis pas persuadé que Lucien Favre d'accord. Ouais. Ça, faudrait expliquer aussi comment ça se passe le recrutement à Dortmund, qui est un petit peu compliqué au passage, parce que il y a un président et il y a aussi un directeur sportif qui font un peu la pluie et le beau temps. Et même s'ils demandent l'accord toujours du coach, c'est pas tout à fait le coach qui donne son avis à la fin.
Et notre Witzel, il va revenir un jour.
Oui, Witzel, il va revenir pour le match de février. Ça c'est pas compliqué. Ouais. Ça c'est pas le problème. Si tu veux, c'est que tu regardes l'équipe. Achraf Hakimi, alors c'est ce fameux 3-4-3 qu'il a mis en place dernièrement, enfin 3-4-1-2 si on veut penser que Marco Reus en fait joue à la place comme attaquant et comme meneur. Achraf Hakimi, c'est extraordinaire ce qu'il fait sur son côté droit, sauf qu'il sait pas défendre. Ouais. Il est tellement jeune aujourd'hui, il a un tel volume de jeu qu'il fait des jeux en triangle extraordinaire sur le côté droit, mais c'est tendu. Du côté gauche, c'est Schultz ou Guerrero qui sont pas en super forme en ce moment. D'ailleurs, Schultz pourrait d'ailleurs, à mon avis, n'est pas sûr de partir à l'Euro 2020. On a une défense centrale qui est catastrophique, sauf Zagadou qui a quand même que 20 ans. Tu gagnes pas une Ligue des Champions, je suis désolé. Avec des défenseurs centraux de 20 ans, c'est très compliqué. Akanji, l'international suisse, c'est pas beau. Burki, le gardien suisse, est capable de te faire des boulettes, comme de faire des matchs extraordinaires. Mais ça, alors, ça, c'est intéressant parce que Burki, c'est de mon point de vue un très bon gardien, mais c'est pas le gardien qu'à mon avis, qu'il faudrait pour le Borussia Dortmund. Et ça fait des années que ça dure. Donc, le De La Haine, pour l'instant, l'international danois est blessé. Mo Daoud a complètement disparu. Brun Larsen, le danois, lui aussi veut partir parce qu'il a pas de temps de jeu, etc. Donc, on a vraiment un très bel effectif, mais tu sens que je m'excuse d'être vulgaire, mais il y a Thorgan Hazard qui a fait une conférence de presse. Il dit je pars en congé là pendant une semaine là, et je dis j'ai un sentiment, excusez-moi d'être vulgaire, de merde quoi. C'est-à-dire que ils se disent que cette équipe là de Dortmund doit faire mieux, beaucoup mieux.
Alors, en tout cas, c'est plutôt rassurant pour les supporters du PSG qui doivent nous écouter maintenant. Il y a un autre club, donc le Bayern, bien sûr, avant de parler des leaders, qui malgré sa victoire ce week-end, au vu de la rencontre, n'est pas totalement guéri. C'est un jeune joueur là, alors peut-être avant de parler du Bayern, je sais pas comment on prononce. Circé, voilà, néerlandais de 18 ans.
C'est un jeune néerlandais de 18 ans.
Mais c'est incroyable ce qui s'est passé.
Ah bah c'est typique de ce qui se passe. J'ai envie de dire en particulier pour le Bayern Munich et en général pour le football allemand.
Il a marqué deux buts en 8 minutes quoi, c'est ça. Voilà, deux matchs et 8 minutes.
Alors mais ça c'est aussi fou, c'est-à-dire qu'on dit que Dortmund n'a pas de chance, mais de l'autre côté le Bayern Munich, ils ont de la chance. Ils ont eu un match très compliqué à Fribourg en milieu de semaine et là il y a 1-1, on essaie les arrêts de jeu et on fait rentrer ce gamin de 18 ans et il marque le but à 2-1 qui permet finalement après c'est 3-1 parce que évidemment Fribourg cherche à égaliser tout de suite et puis il y a un contre et puis cette semaine c'est pareil aussi, ce week-end pardon, c'est pareil aussi, le match il y a comment ça s'appelle et on n'y arrive pas. Wolfsburg avait décidé de mettre des joueurs en contre et de solidifier un peu tout le schéma défensif et hop on fait rentrer à nouveau le gamin et hop il marque le but etc. Donc il a deux titularisations en Bundesliga, 8 minutes en Bundesliga, 2 buts, ce qui est assez extraordinaire en statistique, mais surtout au passage avec une nouvelle passe de Thomas Müller qui est un nouveau recordman des passes décisive lors des matchs allés de l'histoire de la Bundesliga, ce qui est pas neutre. Et on se passe quand
même.
Ça a l'air
de rien. On pensait qu'il était à la cave. Mais...
Ah bah moi depuis le début de la saison en fait.
Non mais il est revenu quoi avec le retour de Flick.
Il a profité pour faire dégager Nico Kovac au passage. Mais quand il est titulaire, il est toujours, comme on dit en Allemagne, au Bayern, on joue pas sans Thomas Müller. C'était un axiome de Louis van Gaal. Donc c'est important. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont de la chance quand même. Ça veut pas dire qu'ils ont pas dominé le match, etc. Mais ils sont pas malheureux. C'est-à-dire qu'ils restent encore accrochés. Alors je pense qu'on va avoir une deuxième partie de saison avec la piste assez extraordinaire pour le titre. Le Bayern, qui lui, a toujours des problèmes défensifs. C'est pas tellement quel est son 11 de départ. C'est très intéressant le banc qu'il y avait contre Wolfsburg, il y avait que des jeunes sauf Boateng qui avait rentré parce que Martinez s'est blessé musculairement pendant un long moment.
Donc, quand on regarde le banc,
il a pris un peu de poids hein, Boateng.
Légèrement.
Hein ouais. Alors le pied est là au niveau de la qualité de la relance, mais
oui, non, mais c'est un peu le vrai problème. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu qu'il y a des rumeurs d'aller chercher un arrière droit. C'est-à-dire qu'il est fort possible qu'en deuxième partie de saison, lorsqu'Hernandez reviendra, et il ne reviendra pas avant la reprise. C'est-à-dire que déjà là, la saison d'Hernandez quand même, elle est plus que limite hein, au passage. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il va quasiment pas jouer. Il est sûr qu'on va mettre à la barre en défense centrale en ce moment. Il y a le jeune Davis, 18 ans, qui est la vraie bonne surprise de la saison. En fait, Il est possible que Pavard soit décalé en défense centrale, parce que Martinez est blessé et Boateng, honnêtement, c'est un camion, quoi. Donc c'est très compliqué. Donc Kimmich, on le préfère le mettre au milieu parce que Thiago est encore blessé, Goretzka est blessé, Tolisso, il est souvent absent quand il n'est pas blessé. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça, mais ils sont toujours là, on va dire. Mais ce qui m'intéresse, parce que j'aime bien regarder aussi sur le moyen terme, c'est que il va falloir que, y compris les supporters du Bayern, arrêter avec le super Bayern des périodes Heynckes et Guardiola. C'est complètement fini. Là, ils ont 33 points. Lorsque le Bayern gagnait en 2013-2014 le championnat, on était à 90 points, c'est-à-dire qu'ils balayaient le championnat. Là, on est redevenu avec Leipzig et Mönchengladbach sur des niveaux, entre guillemets, humains. C'est-à-dire 70-75 points à la fin de la saison. C'est normal. Et en fait, on a vécu une période extraordinaire, je l'entends au sens premier, qui n'est pas ordinaire avec ce qui s'est passé avec le Bayern, qui au passage avait gagné la Ligue des Champions. Donc ça me semble important de citer ce qui se passe en Bundesliga en ce moment, parce que on est juste redevenu à la normale, entre guillemets.
Ouais, et le Bayern qui a confirmé Flick, donc jusqu'à la fin de saison, au moins, c'est
jusqu'à
ça.
Jusqu'à la fin de la saison,
pas
au moins.
Un nouvel entraîneur, quoi.
Et puis il va y avoir une autre polémique qui va arriver, parce que peut-être que vous l'avez suivi, que Nübel, le gardien de Schalke 04, a décidé de, comme il était en fin de contrat, de quitter Schalke 04, donc le club de Gelsenkirchen, à la fin de la saison. Et on l'annonce, en tout cas la presse, on attend la confirmation, l'annonce pour un contrat de 5 ans au Bayern l'année prochaine. Ah. Le problème, c'est qu'on l'annonce comme le futur international allemand, sauf qu'il y en a déjà un qui est là-bas, qui devrait d'ailleurs prolonger jusqu'en 2023. Donc je sais pas, je pense beaucoup à un Barcelonais en ce moment qui doit se trouver entre deux feux, qui doit plus savoir un petit peu où on en est. C'est très compliqué parce que les gens ne comprennent pas si Nübel évidemment part au Bayern, tout en sachant que rappelons que Manuel Neuer était une ancienne Gelsenkirchen, moi qui se connaissent bien avec Nübel. Le problème, c'est qu'il a 23 ans. C'est le futur international allemand. Faudrait pas qu'il perde son temps en étant le numéro 2 du Bayern dans les années prochaines.
Ouais. Et donc, dans ce classement surprenant, tu l'as dit, Leipzig est leader, Gladbach est deuxième. Est-ce que ces deux équipes peuvent vraiment viser le titre et résister à un retour, pourquoi pas, du Bayern qui a quand même remporté les 7 derniers championnats?
Ouais. Alors moi, ce que je pense, c'est très intéressant, il y a eu une interview de Nagelsmann en Allemagne qui a été assez extraordinaire, où il a assez critiqué le niveau de l'entraîneur de Leipzig, qui a critiqué le niveau de son équipe, non pas en disant qu'ils sont mauvais et tout ça, mais il disait par rapport aux objectifs des grands clubs européens, Leipzig n'est pas encore arrivé. Rappelez-vous que cette saison, lorsqu'il y a eu le match Leipzig-Bayern, il y a le fameux 1-1, le Bayern avait complètement
dominé, archi-dominé. Jusqu'au changement tactique de Nagelsmann, exactement, qui avait équilibré.
Exactement. Il y a le 3-3 cette semaine entre Dortmund ou Leipzig. Leipzig se fait pulvériser en première mi-temps. Mmh. Et en fait, je trouve que Leipzig, ça la change du champion. Et en Allemagne, il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent Mais ils vont aller le chercher ce titre, mine de rien. Ils en sont à 8 matchs sans défaite en Bundesliga, 7 victoires, 1 nul, 3 pions à chaque fois au minimum. C'est-à-dire qu'ils sont en train, offensivement, ça marche très très bien. Ils vont récupérer leurs blessés au mois de février. On verra ce qu'ils feront en Ligue des Champions, parce que Tottenham, quand même, c'est pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils finissent deuxième, on dira bon bah le Bayern est plus fort. Mais ils ont tout pour aller chercher la première place. Et je mettrais bien une petite pièce, un petit phénix.
Mais là, quand tu regardes le match contre Augsbourg, en plus, qu'est-ce qui graille devant? Parce que les opportunités de but que t'as et qui vont pas au bout, parce qu'ils ont, ils perdent 1-0, mais ils ont dominé, archi dominé, ils ont un nombre d'occasions incroyables, et 3 c'est le minimum presque.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont. Alors Augsbourg est dans une super, était dans la zone rouge, ils sont réussi à revenir à la 10e place, ils sont dans une vraie dynamique en ce moment, donc c'était pas évident ce match-là. Ils sont menés 1-0 comme tu l'as dit, et surtout ils arrivent à revenir. Sauf que chose que n'arrive pas à faire Dortmund par exemple. Dortmund perd des points quand Leipzig va les gagner. Et ça quand même, s'ils arrivent à faire la même chose lors de la deuxième partie de saison, c'est l'énorme différence avec le Bayern. Le Bayern n'a plus le droit à l'erreur en fait, tandis que Leipzig ils ont encore un ou deux jokers après. Ça ça me semble important pour la suite de la saison. Je ne serais pas surpris, même si ce n'est pas de mon point de vue la plus belle équipe d'Allemagne, ou en tout cas la plus forte, je ne serais pas surpris que Leipzig soit le champion 2020.
Ouais. Paulo, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la première partie de saison du contingent de Français que tu as embouli?
Alors attends, j'en ai 26. Ceux qui ont bien marché à Leipzig, évidemment, c'est Konaté a été blessé malheureusement, c'est dommage parce qu'il a sa place de titulaire. Nkunku, c'est très bien intégré.
Ah, c'est pas mal,
j'ai pas envie de dire dans le 11, mais dans les 14 en tout cas. Okay. Il est là pour
être meilleur passeur.
Il pourrait être meilleur passeur. En fait, ce qui est bien, c'est moi je les adore voir jouer, c'est quand il y a Werner devant, il y a Forsberg et Zabitzer avec Nkunku.
Il joue Nkunku à Leipzig.
Alors en général, il joue toujours. Alors il joue un peu partout lui. Ouais. Il joue un peu partout et surtout derrière Werner, il joue souvent en deuxième attaquant, derrière en 9,5 et surtout en fait il joue beaucoup parce que Zabitzer c'est presque le meneur de jeu quand c'est pas Forsberg. Donc c'est à ce niveau-là. Si on passe au Bayern, là, c'est beaucoup plus.
Et Nordi Mukiele, Polo qui fait une
bonne saison. Mukiele qui n'est pas systématiquement titulaire. Ouais. Moi, j'ai un vrai problème avec lui, c'est-à-dire qu'il a une puissance évidemment qui est là. Ça, c'est ça me fait. En fait, le vrai problème que j'ai avec Mukiele, c'est qu'il me fait penser à des copains d'enfance qui te faisaient le 100 mètres en 10 secondes et que lorsqu'il lui demandait de centrer, ben il se retrouve à faire un drop et ça devient un peu compliqué. Mais il a une puissance en défense, c'est vrai, qui est impressionnante. Si je passe au Bayern, c'est beaucoup plus compliqué déjà parce que Coman a certes flambé en début de saison, ensuite il a été blessé, c'est moins bon. Ensuite, on a la vraie bonne surprise. Entre bonne surprise, pas forcément dans ses prestations, mais en tout cas c'est le fait qu'il joue, c'est pas mal, évidemment. Parce que c'était au départ c'est un couteau suisse. Hein, quand tu vois l'effectif, il est pas dans le 11 titulaire. Tolisso blessé lorsqu'il joue, c'est pas forcément extraordinaire non plus.
C'est pénible pour les Bleus ça.
Ouais, et puis le quatrième qui évidemment
Cuisance. Oublié
et
Cuisance
joue pas dans la troisième division. Non, et puis Lucas Hernandez qui est blessé évidemment, qui était théoriquement celui qui était titulaire et qui est le grand absent en fait de cette équipe bavaroise. Mais faut faire attention aux statistiques au Bayern, parce que quand t'es dans le Bayern et que tu mets 5-0 à tout le monde et que tu mets un but, on a l'impression que c'est extraordinaire. Les performances de Pavard depuis le début de saison sont relativement moyennes. Ensuite Dortmund, j'en ai pas. Ensuite
Mönchengladbach.
Alors Mönchengladbach,
le duo français.
Alors ce qui est intéressant, Marcus Thuram, on va dire qu'il a eu un début très compliqué lors des trois premières journées où moi j'avais relevé surtout son déficit technique qui me semblait rédhibitoire pour la Bundesliga. Il a ensuite une période extrêmement prolifique, notamment au niveau des buts, et c'est lui qui a plus ou moins tiré avec Zakaria, l'international suisse, l'équipe. Il a ensuite sur ses disons-le très clair, Marco Rose l'a utilisé pour tous les matchs et il finit le dernier mois complètement, le mois de décembre complètement rincé. D'ailleurs, il marque plus depuis trois matchs en Bundesliga. Il a quand même marqué à nouveau en Europa League, mais n'oublions pas que Mönchengladbach est éliminé. Donc ça, c'est la bonne. Thuram est une bonne surprise. N'en faisons pas non plus un ballon d'or tel que je peux le voir ici.
Qui a dit ça?
Et Pléa, le problème, c'est qu'il a
été. Quelqu'un qui a pris de la drogue, qui a dit ça.
Et Pléa, non, ce qui est sûr, c'est que pour Thuram, pour être sérieux, et là, je bats ma coulpe, c'est qu'il a quand même fait d'énormes efforts au niveau technique, ce qui n'était pas le cas lors de ses premiers matchs, et il est en train de s'intégrer à l'équipe de façon assez intéressante. Pléa, c'est une bonne chose, mais il est blessé. Lui aussi, il a aussi marqué 6 buts, si je m'en rappelle bien. Il a tout pour être le titulaire de l'attaque aux côtés de Thuram. N'oublions pas qu'il y a une grosse concurrence avec Mbolo, Herman, et puis Lars Kindle, quand même, le capitaine internationalement. Si je descends ensuite, moi je veux bien vous faire toutes les équipes.
Les principaux.
Moi je voudrais dire, un joueur on ne parle jamais en France, c'est Jonathan Schmid, le joueur de Fribourg.
Il est toujours là-bas. Il avait une espèce de crête là.
Exactement. Plus maintenant, mais c'est un joueur que j'apprécie.
Rappelle-nous latéral gauche ou droite.
Aujourd'hui, alors dans le 3-4-3 de Fribourg, il joue plutôt milieu droit.
Et il a un pied droit.
Je me souviens, il est toujours là.
Je ne comprends pas que ce joueur, même si je sais qu'un club français s'intéressait à lui il y a quelques années, mais maintenant, à 20 ans, c'est un peu fini. Qui je pourrais vous dire encore?
On a quand même les principaux, je pense.
Voilà, les principaux, en tout cas pour les grosses équipes.
Bon, en tout cas, il y a deux
amis. Diaby qui m'énerve beaucoup.
Diaby à Leverkusen,
qui est souvent titulaire parce qu'il y a des problèmes avec Bailey et Bellarabi. Et Diaby, en fait, il est doué techniquement, il a des choses, il fait des choses extraordinaires entre les 50 mètres et les 35 et 30 mètres, 25 mètres, sauf que souvent dans la dernière passe ou tout simplement sur les tirs, il choisit pas, il a pas, il fait pas le bon choix et il est à Leverkusen, donc il doit absolument s'améliorer.
C'est bien celui du PSG dont tu nous parles, Polo. Il est encore jeune.
Et Mateta qui est revenu à Mayence, qui j'espère fera comme l'année dernière, parce qu'il avait mis 14 buts si je me rappelais bien l'année dernière, qui va revenir, qui était blessé, qui revient en ce moment et on l'espère en seconde partie
En tout cas, il y a une grosse mode aussi des coachs allemands. Hein. Tuchel au PSG, Nagelsmann, Rose, là, ce sont deux jeunes coachs qui sont en tête de Bundesliga.
On les attendait.
En Angleterre aussi. Premier.
Il y a Farke, Norwich, ces joueurs-là sont partout, les entraîneurs allemands.
Peut-être une inspiration pour la DTN.
C'est un débat très intéressant.
J'espère l'occasion de le faire sur RMC.
Juste 5 secondes. juste parce qu'on parle toujours des coachs allemands qui réussissent liés à cette révolution footballistique allemande, mais on oublie tous ceux qui étaient cramés. Moi, je pourrais vous en citer plein qui, il y a 4-5 ans, étaient là et qu'on disait que c'était les futurs grands, et finalement, ils sont passés à la trappe. Et donc, on parle souvent de club tout rôle, mais il y en a aussi beaucoup qui passent à la trappe, et ça serait intéressant de relativiser, on va dire, la formation des coachs à l'allemande, même si, évidemment, au niveau du spectacle, moi, je me régale, et on va avoir une deuxième partie de saison extraordinaire, donc voilà, ça va y aller, quoi.
Ah, il est content de sa Bundesliga, mais c'est vrai, il y a du suspense, et on suivra ça, évidemment, cette deuxième partie de saison avec toi, Polo. Merci beaucoup, Polo.
Régale-toi, Polo.
Merci beaucoup.
Bonne fête à toi.
Polo Weinarten,
messieurs. Merci.
Ciao, ciao.
On a rien compris. À très bientôt, Polo, sur RMC. On revient dans un instant, on parlera de l'Angleterre, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire après le week-end européen. Il y aura le quiz aussi, Jonathan et Damien. On jouera avec Arthur Robert qui a préparé ce quiz spécialement pour nous. Vous pouvez jouer également chez vous, bien sûr. Et puis le résultat du jeu Survivor, c'est dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. François Pinet.
Jonathan Macardy, Damien Perrinel, toujours là, toujours en forme, messieurs. On est encore là pendant plus d'une demi-heure, jusqu'à minuit dans l'after, avec également la suite de nos drôles de dames, le tour du week-end européen. On a fait l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. On va parler de l'Angleterre maintenant avec Julien Laurence. Salut, salut Julien.
Salut François, salut à tous.
Salut Julien.
Avant de parler de la Première Ligue, Julien, on vient quand même sur Liverpool, qui est sur le toit du monde, champion du monde des clubs. Vainqueur de cette compétition, donc face à Flamengo le week-end dernier. Est-ce que ça compte ça en Angleterre, le championnat du monde des clubs?
Alors c'est un peu le débat, tu sais, ici, c'est que il y a eu un souci avec le calendrier pour les joueurs de Liverpool, puisqu'ils ont dû jouer un match de coupe de la Ligue anglaise un jour avant, à la veille de jouer leur demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc Klopp d'abord avait demandé, et le club avait demandé, si le match de Coupe de la Ligue aurait peut-être pu être reporté un autre jour pour pouvoir mettre leur meilleure équipe en Coupe de la Ligue et puis aussi emmener leur meilleure équipe possible dans ce championnat du monde des clubs. Ça leur avait été refusé, donc ils avaient envoyé une très très jeune équipe qui a d'ailleurs pris 5-0 à Aston Villa le mardi soir pour jouer en Coupe de la Ligue, et le mercredi ils avaient gagné leur demi-finale de championnat du monde des clubs, parce qu'effectivement ici les Anglais, pour les Anglais en tout cas, ou pour beaucoup d'Anglais, la Coupe de la Ligue anglaise était plus importante que le championnat du monde des clubs. Et Klopp d'ailleurs a eu cette phrase assez mythique pendant une conférence de presse avant la finale, en disant: mais vous savez, quand Flamengo ils quittent le Brésil, ils sont poussés par tout un pays qui leur demande, qui les fait rêver en leur demandant de leur ramener ce trophée de championnat du monde des clubs. Nous, quand on est parti, on avait des gens en Angleterre qui voulaient qu'on laisse tomber cette compétition et plutôt qu'on se concentre sur la Coupe de la Ligue anglaise contre Aston Villa. Et pour Klopp, il dit c'est pas comme ça que ça marche. C'est un trophée très important pour nous à Liverpool. Liverpool l'avait jamais remporté. Ils l'ont fait, et plutôt de belle manière, contre une équipe de Flamengo qui leur a donné du fil à retordre, et ça a été plutôt une belle finale, j'ai trouvé. Et c'est vrai que Liverpool, eh ben, il s'est très content d'aller au Qatar pour jouer cette compétition et pour la remporter aussi.
Vas-y Damien, avec le micro.
Ça fait 3 titres en 2019, c'est pas négligeable pour ce club, hein, d'autant plus quoi, ça reste un titre important.
Ouais. Et puis il y aura un match important maintenant pour Liverpool, on repart du championnat, et là tu vas être sollicité parce que c'est le fameux Boxing Day. Leicester, Liverpool, jeudi prochain, le deuxième contre le leader. En gros, si Liverpool gagne, c'est terminé, ça y est, il n'y a plus de suspense.
C'est déjà fini, non?
Ouais, je pense que c'est déjà terminé, ils ont 10 points d'avance. Bien sûr que si Leicester s'imposait et infligerait pour la première fois sa première défaite à Liverpool cette saison en première ligue, ça ferait 7 points, mais j'ai du mal quand même à croire que Liverpool puisse lâcher cet avantage maintenant. Ils sont tellement en contrôle, ils sont tellement en confiance, même quand ils jouent pas bien, ils gagnent les matchs de première ligue. Ils ont un seul match nul cette saison à Manchester United, et sinon que des victoires depuis le mois d'août. C'est une vraie machine, c'est vraiment assez impressionnant.
Ils avaient 10 points aussi sur City dans l'an dernier à un moment donné, non?
Alors ils avaient 7 points d'avance le 3 janvier, avant d'aller jouer à City. En cas de victoire, ils auraient eu 10 points d'avance sur les Citizens. Ils ont perdu cette rencontre-là, donc ils sont descendus à 4 points.
Ouais, donc là,
et après, voilà, ils sont revenus.
C'était City, hein, c'était pas Leicester.
Et c'était pas Leicester non plus, c'est vrai.
Et Guardiola, en plus, a dit récemment là qu'il y croyait pas vraiment. Il était pas très optimiste sur le fait que Liverpool perde des matchs. Que lui en gagne, oui, mais que Liverpool en perde, c'était plus compliqué.
Exactement.
En première ligue, justement, il y a un duel aussi important en vue de la Ligue des Champions pour la qualification. C'était Chelsea qui s'est imposé sur le terrain de Tottenham 2-0. C'était surtout les retrouvailles de Lampard et de Mourinho. Lampard qui a été joueur de Mourinho, et Lampard a donné une sorte de leçon à Mourinho.
C'est ça, c'était vraiment le maître contre l'élève, ces retrouvailles entre José Mourinho et Frank Lampard. La saison dernière, quand Lampard était à Derby County, il avait déjà éliminé en Coupe de la Ligue anglaise le Manchester United de José Mourinho. Tout le monde avait mis ça un petit peu sur le fait que c'était un match de coupe, que United ce soir-là, Mourinho avait fait un petit peu tourner, etc., etc. Là, c'était un vrai match. Et on attendait vraiment d'ailleurs les retrouvailles entre les deux et surtout voir tactiquement qui allait l'emporter sur l'autre, comment Lampard allait se comporter. Chelsea venait de perdre 4 de ses 5 derniers matchs de championnat avant son déplacement au Tottenham Stadium, et ben finalement il n'y a pas eu de match. On espérait tous un match et il n'y a pas eu de match, tellement Chelsea a été supérieur, tellement Lampard a été supérieur à Mourinho tactiquement dans cette rencontre. Et pour vous dire à quel point ça a dû faire du mal à José Mourinho, c'est qu'à la fin du match, tout ce qui l'intéressait de parler pour dévier un petit peu les conversations, c'était sur le carton rouge de Son pour son coup de pied à Antonio Rudiger, et pas du tout sur la rencontre, parce que Mourinho savait très bien que les questions auraient été très désagréables pour lui sur la supériorité de Lampard tactique pendant cette rencontre.
Tottenham qui est 7e à 6 points de Chelsea, qui est 4e.
Au-delà du coup tactique qui rappelait peut-être le Chelsea de Conte sur le 3-4-3, il y a aussi Chelsea qui va pouvoir recruter maintenant et combler des trous lors du mercato hivernal.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, on va pouvoir voir effectivement ce que Lampard va faire. On parle d'un attaquant, on parle d'un arrière gauche aussi. Ça va être intéressant de voir effectivement le départ de Giroud, lui est acté, je pense.
T'as des nouvelles sur sa destination?
Non, pas encore. Je pense qu'un club comme l'Inter Milan, par exemple, est toujours très intéressé.
Ouais, super, il jouera
club,
pas non plus.
Le club anglais, non, mais bien sûr, ça, il prendra ça en compte. Il verra bien un moment. De toute façon, le marché n'est pas encore ouvert maintenant, mais c'est sûr qu'il ira voir, il ira ailleurs, et c'est ce qu'il lui faut de toute façon. Mais ils le remplaceront en allant chercher quelqu'un qui sera peut-être plus haut dans la hiérarchie aussi et qui jouera peut-être plus que Giroud l'a fait.
Ouais, au moins, ils ont la possibilité de le remplacer.
On parle de Haaland, voilà, c'est ça. Le joueur de Salzbourg. Là encore.
Pas à Chelsea, je pense. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui sont bien dans un état bien plus avancé, Dortmund et Leipzig notamment, plus que Chelsea.
D'accord. Et aussi un mot quand même sur ce qui s'est passé et qui a marqué l'Angleterre. Hein. Ce sont les cris racistes à l'encontre de Rudiger dans le stade à Tottenham. Hein. Et c'est vrai que Mourinho en a parlé. Rudiger aussi a réagi en espérant qu'il y ait des sanctions pour les comportements racistes des supporters de Tottenham. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que le match a été arrêté avec une partie du protocole, pas le protocole FIFA et UEFA, mais le protocole de la Première Ligue, où il y a eu une annonce faite par le speaker du stade en disant que les cris racistes avaient interféré pendant la rencontre et que c'était inadmissible et que la rencontre pourrait être arrêtée à un moment ou à un autre. Ça s'est arrêté effectivement, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas la première fois cette saison, malheureusement. Ici en Angleterre, on parle beaucoup de la Serie A, on parle beaucoup de l'Italie, mais en Angleterre, les Anglais devraient bien regarder devant leur porte, parce que c'est vrai que ça arrive de plus en plus, et c'est forcément très regrettable. Mais c'est aussi quelque chose qui arrive parce que je pense que la Première Ligue et la Fédération Anglaise ne font pas assez pour éradiquer ce problème.
Et puis un autre résultat marquant ce week-end, c'est la victoire de la Lanterne Rouge, Watford, face à Manchester United 2-0. Ça a été marqué par le retour de Pogba. On va peut-être en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais quand même, comment c'est possible que Manchester United perde face à cette équipe qui avait gagné deux fois seulement depuis le début de la saison?
Deux fois et jamais à domicile, hein. D'ailleurs, c'est la première victoire en Première Ligue à domicile. Alors il y a une stat assez impressionnante sur Manchester United cette saison, c'est que dans les matchs où ils ont eu plus de 50% de la possession de balle, ils n'ont gagné qu'une seule rencontre pour 6 matchs nuls et 5 défaites. En gros, ça veut dire que dès qu'ils jouent contre des grosses équipes où ils peuvent leur laisser le ballon et eux jouer en contre-attaque, ça leur réussit. On l'a vu, la victoire contre Manchester City, le match nul contre Liverpool par exemple, ou même la victoire contre Tottenham de José Mourinho récemment. En revanche, quand eux ont beaucoup le ballon et qu'ils laissent, et que c'est l'adversaire qui joue en contre et eux qui doivent faire le jeu, là ils ont beaucoup plus de mal, et l'absence de Pogba n'a pas aidé aussi dans ce sens-là depuis le 30 septembre. Pogba, tu l'as dit, il est entré à la 64e minute de jeu, il a été très bon. Il a créé plus d'occasions pour Manchester United à lui tout seul lors de ces 25 minutes-là que tout le reste du match avec ses coéquipiers. Donc c'est le seul point positif de cette journée, où David De Gea a encore fait une bourde énorme sur le premier but d'Ismaïla Sarr pour Watford, l'ancien Rennais. Mais la bonne nouvelle, c'est vraiment le retour de Pogba, et dans cette forme-là déjà, comme j'ai dit, son dernier match remonté au 30 septembre.
Mais c'est quand même surprenant, Solskjaer, il va rester là avec des résultats pareils
Pour l'instant, il reste. C'est ce qu'on m'a encore répété ce matin. Ça fait donc un an. Il a fêté ses un an à la tête de United hier, justement. Et c'est vrai que malgré des très bonnes performances contre les gros, c'est ce qu'on vient de dire, c'est assez insuffisant dans l'ensemble quand même. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit toujours un petit peu en position difficile, on va dire, ou en tout cas pas là où ils aimeraient l'être au classement,
ça montre aussi les limites, les limites de Solskjaer. De la quatrième place. Et on en parlait un petit peu avec Fred, qui n'y croyait absolument pas, mais un départ de Pogba lors de ce mercato d'hiver, c'est envisageable ou pas du tout?
Non, je ne crois pas non plus, non.
Non, non, il va rester.
Ouais.
Il devrait, je sais pas, Pogba qui ne quitte pas Manchester, qui est pourtant dans une situation délicate.
Non, mais encore une fois, Pogba, de toute façon, il va falloir qu'il se remette.
On pense forcément à l'Euro, hein, du côté de.
Ouais, mais justement, qu'il joue dans un environnement
qui prenne du rythme, il est à l'aise. Puis,
c'est le genre de joueur que tu fais sur un gros transfert estival.
Ouais, il partira cet été de toute manière, mais là, cet hiver, ça aurait ni queue ni tête.
Ah bon?
Ni pour le joueur, ni pour le club, ni pour le club qui l'a acheté.
Si t'as le Real qui t'appelle, ça n'a pas de tête ni de queue.
Mais le Real ne veut pas recruter apparemment.
Oui. Zidane, c'est ce qu'il a dit effectivement. Mais bon, si on lui propose un Pogba, il changera peut-être d'avis. Boxing Day, donc tu vas avoir du travail, mais t'en as tout le temps, hein, du travail bien sûr, mais là encore plus, hein, puisque tu es quasiment le seul à ne pas t'arrêter pendant les fêtes, Julien. Mais ça va être intéressant ce Boxing Day, parce qu'il y a deux équipes qu'on va suivre particulièrement. Everton et Arsenal, parce qu'ils vont changer, évidemment, ils ont changé d'entraîneur. Everton avec Ancelotti et Arsenal avec Arteta. C'est quand même assez surprenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, Damien et Jonathan, de retrouver Ancelotti à la tête d'Everton, qui est pourtant 15e de Premier League. En Angleterre, ils ne sont pas surpris, ils trouvent ça tout à fait normal.
Non, ils sont un peu surpris, c'est vrai, parce que par rapport à son palmarès et à son pédigré et les clubs qu'il a entraînés avant, et c'est vrai que tu as l'impression, enfin c'est pas une impression d'ailleurs, hein, c'est que tu descends un petit peu quand même d'une catégorie ou deux pour aller à Everton, mais c'est un projet qui l'intéresse, un projet intéressant d'ailleurs, je le trouve, avec un nouveau stade qui va arriver en 2023, un stade magnifique de 52 000 places, avec un propriétaire, Moshiri, qui a de l'argent, même si à un moment le fair play financier va aussi entrer en jeu. Ils pourront pas dépenser 200 millions d'euros tous les étés comme ils viennent de le faire lors des deux derniers étés, mais c'est un projet intéressant, je pense, avec un effectif qui est aussi intéressant. C'est ce qu'Ancelotti a expliqué aujourd'hui lors de sa première conférence de presse. Et puis après, de l'autre côté, on a Mikel Arteta, le retour au club à Arsenal de l'ancien capitaine, qui a passé 5 ans au club sous Arsène Wenger, qui est parti ensuite apprendre le métier d'entraîneur avec Pep Guardiola, qui connaît depuis qu'il a 15 ans, et puis qui revient maintenant pour un petit peu sauver le club à Arsenal, qui se traîne, on l'a dit, hein, en deuxième partie de moitié de tableau, ce qui est assez incroyable pour un club comme Arsenal, depuis le départ d'Emery, il y a maintenant 23 jours, je crois. Arteta avec une énorme, vraiment, mais une énorme tâche face à lui, un gros challenge, un gros défi. Est-ce qu'il est capable de relever ce défi? On verra bien. Lui qui a jamais entraîné, hein, rappelons-le, il n'a jamais entraîné une seule équipe, il a été que simplement entraîneur adjoint de Pep Guardiola pendant 3 saisons. On verra s'il est assez costaud psychologiquement déjà, et puis aussi dans ses choix tactiques, et pour faire progresser ses joueurs, cette équipe qui cette saison a vraiment été très moyenne.
Mais surtout qu'en termes de dynamique, les deux équipes, elles sont, même si Everton est moins bien classé qu'Arsenal, elles sont à l'opposé, parce que Everton allait chercher un match nul à Manchester, il me semble, là ce week-end. Donc ils font match nul contre Arsenal au terme d'un match qui était très très compliqué.
Ah oui, on critique souvent la Ligue 1, mais
très compliqué à regarder celui-là.
Était pas beau, ouais, le 0-0 mais, Everton Arsenal.
Même au-delà de ça, au-delà des attitudes des joueurs, tu sens des joueurs qui sont inférieurs en termes de qualité par rapport à ce qu'il y a à Arsenal, mais au moins qui ont une envie tout autre.
Julien?
Tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Non, mais en plus, c'est Damien a complètement raison. Il y a aussi ce manque de confiance, hein. Même des deux côtés, on l'a vu lors du 0-0 de samedi midi, qui était assez horrible. Et c'est vrai que ça va être une des tâches les plus importantes pour les deux entraîneurs, de rapporter cette confiance d'une manière ou d'une autre à des défenseurs qui défendent pas bien, à des milieux de terrain qui créent pas assez et qui protègent pas assez leur défense, et à des attaquants qui marquent pas non plus ou qui se créent pas assez d'occasions. Donc ça va vraiment être intéressant dès le 26, dès le Boxing Day, pour tous les deux, de voir ce qu'ils vont faire.
Alors le 26, ça sera notamment Arsenal, donc pour la première d'Arteta à Bournemouth, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et puis du côté d'Everton, ça sera une réception de Burnley. Toi, le romantique que tu es, Jonathan, Arteta, Arsenal, je suis sûr que ça te plaît.
Bah oui, parce qu'il a joué au club. C'est un ancien joueur du club. Après, moi, je suis toujours un petit peu sceptique quand je vois un entraîneur un petit peu qui a jamais entraîné prendre un club d'une telle ampleur, telle envergure. Ça a marché avec Zidane. Mais il y a aussi des fois où ça n'a pas forcément bien fonctionné, hein. On se rappelle de Thierry Henry, comment ça s'est passé. Donc le nom, ça suffit pas. Après, lui, je lui donne le le crédit d'avoir passé quand même toutes ces années avec Guardiola.
Guardiola est arrivé à Barcelone.
Oui.
Il n'avait pas de carrière d'entraîneur.
Mais c'est ça l'assurance, carrière, c'est qu'il a passé tout ce temps avec Guardiola qui fait que voilà, tu peux être optimiste.
Maintenant, j'espère qu'il va pas vouloir faire du Guardiola quoi, et qu'il va avoir sa propre identité. Voilà, Mikel Arteta, entraîneur numéro 1 avec sa propre
philosophie. De toute façon, avec l'effectif qu'il a, je suis pas sûr qu'il puisse faire du Guardiola.
Va falloir tout de suite qu'il se rende compte des qualités de son effectif.
Non, c'est vrai, mais aujourd'hui, dans sa conférence de presse, il a dit qu'il allait, on lui a posé la question à un moment, est-ce que vous allez diriger cette équipe comme Guardiola dirige la sienne à Manchester City? Il a dit oui, c'est exactement ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, on a vu déjà beaucoup de discipline, on a vu très peu de sourires à l'entraînement, où ça travaille déjà très dur, où il arrête beaucoup le jeu, où il parle beaucoup, où il replace beaucoup, ce qui change de Freddy Ljungberg déjà, bon, lui qui était pas prêt du tout, pour assumer ce rôle-là, mais aussi de Unai Emery lors des dernières semaines, qui lui, était déconnecté de plus en plus de son équipe, donc, ça va être intéressant.
Ljungberg qui reste d'ailleurs dans le staff d'Arsenal avec Arteta.
Il y a beaucoup de joueurs anciens joueurs du PSG qui sont entraîneurs maintenant là, récents là. Arteta, Gallardo, Pochettino, Heinze. Ça fait beaucoup. Hein.
Cristobal.
Cristobal, c'est qui?
Je rigole. Donc il va y avoir le Boxing Day, qu'on suivra évidemment sur RMC Sport et sur RMC, avec notamment donc ce Leicester Liverpool, 10 points d'écart, on le rappelle, entre les deux équipes, entre le deuxième qui reçoit le premier. Il y aura des beaux matchs, hein, Julien. Il y a Arsenal Manchester United notamment, deux équipes en difficulté. Ça sera après les fêtes, après le 31.
Ouais, Arsenal Chelsea aussi. Hein. Arsenal Chelsea le 29.
Arsenal Chelsea, t'as raison, bien sûr, la 20e journée, ça aussi à suivre.
Wolverhampton Man City qui va être intéressant à suivre
ouais,
aussi.
Wolverhampton qui a battu Manchester City. Ouais. Qui a battu Manchester City lors du match aller. Donc effectivement, on a des belles affiches et puis elles sont souvent aussi chaque jour. Bon, le 26 il y aura beaucoup de matchs la même journée, mais après ils sont se suivent sur les jours, donc vous aurez très peu de jours sans football anglais.
Si
vous aimez le football anglais, vous allez vous régaler sur RMC Sport pendant toutes les fêtes.
Voilà, merci beaucoup Julien.
Ciao.
Merci à vous les gars. Bonne fête à toi. Et à très bientôt donc sur RMC évidemment, puisqu'on aura l'occasion de reparler de tous ces résultats de foot anglais. Dans un instant, à ne pas rater le quiz. Si vous voulez participer au quiz préparé par Arthur Robert, il nous a prévenu, ça va être très compliqué. C'est sur le début de saison 2019.
Il a vu le niveau des participants, il s'est dit voilà. Qu'ils mettent un curseur.
Je ne sais pas si tu as révisé, Jonathan, et pour l'instant, il n'est pas sûr de vouloir participer.
Non, pas sûr. Non. Surtout c'est Arthur Robert qui l'a préparé.
Et puis les résultats du Survivor. Vous avez été très très bon sur le Survivor.
Pour une fois,
Donc on vous donne les résultats dans un instant. Vous savez ce que c'est. Il faut parier sur l'équipe qui gagne. Et pour l'instant, je vous le dis, il est 13 qualifiés sur les 13 engagés. Donc bravo, on en parle dans un instant évidemment avec le quiz sur RMC dans l'After. A tout de suite.
RMC, l'After Foot, François Pinet.
Retour dans l'After, 23h42. On est encore ensemble jusqu'à minuit avec Damien Perrinel, avec Jonathan McCarty. Demain, 21h, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'after. Jonathan, j'espère que vous m'avez écouté. Damien.
Ah ouais.
Il y a Julien Cazard qui a une vie de merde et qui passe son réveillon ici, c'est ça?
Putain, en plus avec Adrien.
Le réveillon à la Cazard, exactement. Bravo Damien. Réveillon à la Cazard avec Adrien et Julien Cazard. Si vous êtes fan, vous écoutez ça.
C'est mieux qu'Adrien, il vienne passer son Noël à RMC plutôt qu'il mange parce qu'il est déjà.
Il y aura 31 aussi, réveillon à la Cazard également. Mais l'after reviendra mercredi, 21h évidemment. Avec vous messieurs, bien sûr. Dans un instant, le quiz d'Arthur Robert qu'on accueille tout de suite. Salut Arthur.
Salut François.
Vraiment salut Damien.
Salut Jonathan. C'est pas très gentil ça pour m'accueillir.
On a Erwan aussi qui est au 32-16 qui va pouvoir jouer avec nous au quiz. Et puis juste avant, je voulais quand même vous donner les résultats de Survivor. C'est parti.
L'After Foot sur RMC avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Avec l'épisode 5 de Survivor, le principe, je vous le rappelle, chaque journée de Ligue 1, vous choisissez une équipe. Si cette équipe perd, vous êtes éliminé. Si cette équipe gagne, vous êtes qualifié. Vous conservez la possibilité de vous partager 2000 euros. Vous pouvez jouer donc sur le site de notre partenaire Winamax. Là, le Survivor, c'était donc le début de cette cinquième session. Très engagé, très qualifié. Bravo Damien, t'as donné la victoire de Montpellier contre Brest. C'est pas compliqué en même temps.
Attends, il restait sur beaucoup de défaites contre Montpellier. Brest,
hein. À domicile, Montpellier, ils sont injouables.
Pour une première. Hein.
Comme Daniel, comme Jérôme, Daniel Riolo, Jérôme Rotten avait aussi dit Montpellier, Kevin Diaz aussi, Gilbert Bribois avait dit, lui, Marseille, tout comme Lionel Charbonnier et Laure Le Pailleur.
Et moi aussi.
Ludovic Obraniak et Jonathan McCarty. Ouais. Alors toi, t'as grillé Marseille, parce qu'une fois que t'as pris un.
J'avais pas compris ce principe-là, en fait.
Bah, attends, dis-moi, ça fait combien de temps que je fais l'acteur?
Depuis le début. Je suis totalement à la ramasse, j'avais pas compris.
Pourtant, j'allais dire que les règles étaient simples, mais apparemment.
C'est quand même, il n'y a pas plus simple. Du coup, tu pourras pas jouer Marseille pour les prochains matchs, voilà. Mais bon, Marseille-Nîmes, c'est vrai qu'il fallait oser, hein, jouer Marseille. Ouais. et puis Strasbourg, qui avait été donné par Nicolas Jamin, par Fred Piquion également. Donc Strasbourg, ça passe. Ça passe aussi pour Willy Sagnol, qui avait donné Nice face à Toulouse, et pour Jérôme Thomas, qui lui avait donné Rennes face à Bordeaux. Là, c'est la voix du supporter, mais fallait oser quand même. Rennes face à Bordeaux, c'était pas gagné. Voilà, prochaine journée du Survivor, on fera ça début janvier avec le retour de Gilbert Bribois et le retour surtout de la Ligue 1. Quelques infos à vous donner avant le quiz. D'abord, cette mauvaise nouvelle pour le LOSC. Je sais pas si vous avez vu ça. Le milieu turc Youssouf Yasice, qui va être opéré d'une rupture du ligament croisé du genou. C'est le LOSC qui l'annonce dans un communiqué. Ça veut dire que sa saison est d'ores et déjà terminée. Il va falloir peut-être recruter à nouveau.
Il y a du monde. Hein. T'as l'avènement de Renato Sanchez, là, même s'il joue sur le côté, et Yasice, c'était plus un joueur d'axe. Mais c'est un petit peu gênant parce que c'est un joueur qui montait en puissance, je trouve, avec le LOSC. Alors là, c'est vrai qu'il était dans une passe qui était un petit peu moins bonne qu'à un moment, mais voilà, je crois que c'était plutôt au mois octobre, novembre, on le voyait enfin s'intégrer, être bon, faire des bonnes performances en Ligue des Champions comme en championnat. Donc ouais, c'est une petite tuile.
Ouais, et puis surtout, il n'y a plus de Coupe d'Europe à Lille en soi, donc
pas besoin de recruter,
forcément.
Donc c'est pas grave.
Bah d'accord. Si, c'est grave pour le joueur. Oui. Et c'est grave pour Galtier parce qu'il a un profil qui était intéressant, tu sais, un petit peu numéro 10, quoi.
Voilà, je sais pas. Timothy Weah qui va revenir.
J'ai peut-être dit une bêtise sur Yasice, mais dans le style de jeu, il me faisait penser un peu à Dugarry.
Qui ça?
Christophe Dugarry.
C'est qui?
Non, ça vous.
C'est qui?
Vous trouvez pas.
Je vous dirais qu'il irait autant.
C'est qui?
Bon, bref. Vous connaissez pas votre histoire du football.
Bah, il a joué à Marseille,
les
bien sûr.
Les génies qui sont passés dans cette.
Dans la nonchalance, c'est ça que
je veux dire? Non, ouais, il y a un petit côté un peu technique, non?
Ouais,
vous regarderez.
Pourquoi pas.
Mais bon.
Non, mais si.
Faut connaître le foot, hein,
pour. Ah, bah, à l'époque, Christophe avait le serre-tête, c'est ça, les
non,
cheveux longs.
Non, ça n'a rien à voir avec le. Je parle de style, pas de style.
Non, mais ouais, pourquoi pas.
Et puis, dernière info sur la statue de Zlatan. Vous avez vu, elle a été vandalisée. Le nez de Zlatan a été cassé.
C'est Joey Barton qui lui a mis un coup de boule.
C'est ce que j'allais dire.
C'est la statue qui est à côté du stade à Malmö parce qu'ils le prennent pour un traître puisqu'il a investi dans le club rival d'Amarby. Voilà.
On s'en fout.
D'accord, très bien. Et ben on passe au quiz tout de suite avec Arthur et avec Erwan. On accueille Erwan au 32-16. Salut Erwan.
Salut Aster.
Salut Erwan.
Alors tu vas jouer avec nous pour le quiz.
Ouais.
Tu es prêt?
Pas le choix de manière.
Je crois, Arthur, que c'est sur le début de saison 2019, c'est ça?
C'est ça, exactement. Par contre, il va falloir qu'Erwan choisisse une équipe. Hein. Il doit se mettre avec l'un de vous. Donc, Erwan, tu choisis qui entre Jonathan, Damien et François?
Allez, Jonathan.
Jonathan. Eh bien, très bien.
Oh là 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 là. Il a perdu déjà.
Déjà, tu ne connais pas les règles du Survivor, mais.
Bon. Alors, on y va. C'est parti, allez, c'est Arthur.
Alors, première question.
C'est nul ce jeu. Je comprends que dalle.
C'est bien, t'as vu, je lance le quiz et je bouffe le jingle du quiz. Première question, très facile. Qui est dernier de Ligue 1?
Toulouse.
Jonathan.
Non, si.
Je suis désolé, Damien, Jonathan. Deuxième question, c'est une enchère, ça vaut 3 points, attention.
Non, j'étais pas prêt, moi.
Enchère, j'espère que vous avez de quoi noter. Enchère,
ouais.
Combien de joueurs avec plus de 6 buts cette saison en Ligue 1 vous pouvez me citer? Il y en a 18 en tout. Combien de joueurs
qui commencent
avec plus de 6 buts en Ligue 1 vous pouvez me citer? François, tu commences.
Bah, je peux en citer plus de 6 buts. Je peux en citer 5.
5. Damien.
6.
6.
7.
7. François.
8.
8. Allez, Damien. 5. 4. 3.
Non.
2. Très bien.
Tu suis
Jonathan,
ou pas, Jonathan?
Est-ce que tu suis? Elle a dit 8. 8. Ouais. Je tente 9. François, il a le droit de m'aider ou pas?
Non, moi j'ai pas le droit de t'aider.
Non, parce que là il y a l'ordinateur, c'est trop simple. Donc t'es à combien? T'es à 9.
9. Okay, allez, vas-y, non. Vas-y.
9 et bah tu lui laisses, très bien. Allez. Beignet d'air. Alors, Beignet d'air, c'est bon.
Osimhen,
c'est bon.
Icardi,
c'est bon.
Mbappé,
c'est bon.
Bouanga,
c'est bon.
Dembélé,
c'est bon.
Pipa Benedetto, c'est bon.
Ah bah bien sûr,
oui,
c'est bon.
Oui, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu as 7. Allez, 5. 4.
Merci, celui de Metz, là.
3.
Putain.
Diallo.
Bien joué.
C'est bon.
Bien joué. Vite.
Allez. 5. 4.
Memphis.
Voilà. Memphis.
Oh là là,
on y
là
est, c'est magnifique. Non, bien joué, Jonathan. Donc, on est à 4. Je rappelle le score. Jonathan 4, François 0 oui. Et Damien 0.
Merci.
Qui est le meilleur passeur?
Je demandais la VAR sur Toulouse. Franchement.
Messieurs, qui est le meilleur passeur de Ligue 1?
Slimani.
Non. Slimani est à égalité, mais avec le premier. Courossier est à égalité avec 7 joueurs. Genre, 7 passes décisives, je vais y arriver.
Il y en a un.
Mais c'est un autre joueur qui a
passé
avec Di Maria, c'est bon, c'est François.
Putain, merde. Allez, on remonte. La remontada. Ouais. C'est en route.
Je vous donne les scores. François 1, Damien 0, Jonathan.
La grenatada, là, on te rappelle.
Oui, voilà. Messieurs, qui est la recrue la plus prolifique cette saison parmi les 5 grosses
semaines? Icardi.
Ah non.
Ben Yedder,
c'est bon. Ouais. Bien, Erwan, bien, mon pote. 5 points pour Jonathan et Erwan. 1 point pour François. 0 toujours. Pour Damien, tu peux te réveiller. Là, je vais vous donner des noms de clubs. Va falloir me trouver le joueur qui correspond. Donc c'est un kick à jouer. Je vous donne les noms de clubs. Racing Santander, Real Saragosse, Espagnol Barcelone, Villarreal. C'est un joueur de Ligue 1.
Saragosse.
Alvaro.
Oh, bien joué, c'est bon. bien joué, mais il est bon.
Ça vaut 3 points. 6 points en tout. Donc 6 points pour Jonathan, 1 point pour François.
Non, mais avant que je comprenne la règle, là, voilà.
0 toujours pour Damien, il va falloir se réveiller, les gars. Qui est le meilleur buteur de Première Ligue?
Vardy.
Vardy.
C'est moi.
Je demande l'arbitrage vidéo.
C'est moi encore là.
Apollo.
Vardy. J'ai dit Vardy avant.
Je demande l'arbitrage vidéo à Paul Vexio, qui est notre réalisateur.
Sans déconner.
Paul.
Si c'est pas moi, Paul.
Paul, tu dors mais tout
sans déconner. Hein. Paul, tu sais que je peux écrire un mail à la direction très facilement.
Bah donc, aussi. C'est François. C'est François.
Salopard.
C'est François Pinet. Donc François.
Mais oui, bien sûr,
les magouilles, hein.
Mais non, pas du tout.
Je rappelle les scores, ouais. Messieurs. François, 2 points. Jonathan, 6 points. Et Damien, va falloir se réveiller. Attention.
Zéro.
Trois heures d'after.
Je vais vous donner des indices. Va falloir trouver le joueur qui correspond.
Ouais, vas-y, balance.
Ajax Amsterdam.
Memphis.
Fantôme. Montre.
Dolberg.
C'est d'ici.
Oh, bien joué. Bien joué.
1-0. 1-0. Un point pour Fantôme, Damien. C'est le premier point.
Bravo, Damien.
2 points pour François Pinet. 6 points pour Jonathan Maccardi. Messieurs, qui est le meilleur buteur français en Première Ligue?
Lacazette?
Non.
Oba?
Non plus, messieurs. Neil Mopé.
Oh,
bravo,
joli,
bravo, ça c'est magnifique.
Bien joué, celle-là, il fallait aller chercher.
Il fallait aller chercher. 7 points.
Celui-là, il vient de loin.
Bien joué, mon pote. 7 points, du coup, pour Jonathan et Erwan. 2 points pour François et 1 point pour Damien. Qui est leader du championnat belge?
La Gantoise.
Standard?
Non.
Anderlecht?
Anderlecht.
Gank?
Non.
Genk? Bruges?
Bruges.
Ah putain. On les a tous cités.
Eh oui. 3 points pour François Pinet, 7 points pour Jonathan et 1 point
pas
toujours.
Pas qu'on suit tous les
Pardon, Sacha. Non, mais vous avez trouvé. Bravo.
Pardon, Sacha.
Un kiki craque, messieurs. Vous allez devoir me sortir tour de rôle, du coup, des clubs de Liga.
De Liga.
On va débuter par Jonathan. Allez, kiki craque, c'est parti.
Barcelone,
c'est bon.
Le Real Madrid,
c'est bon.
Atlético,
c'est bon.
FC Séville,
c'est bon.
Le Betis Séville,
c'est bon.
L'Evente,
c'est bon.
Valence,
c'est bon.
L'Espagnol Barcelone,
c'est bon.
Atlético Bilbao,
c'est bon aussi.
À moi?
À toi. Jonathan, allez, 5. 4.
La Real Sociedad,
c'est bon.
Retafe,
c'est bon aussi. 5. 4. 3. 2. 1.
Santander,
c'est non. Pas bon.
Non.
Ils sont plus là.
Ouais.
Élimination de Damien Perinel. Il reste Jonathan Maccardi et François Pinet.
C'est à qui de parler là?
À toi, Jonathan.
Grenade,
c'est bon. François.
Villarreal,
c'est
putain,
bon.
Le bâtard.
Non, Jonathan, c'est à toi.
Oh putain.
Allez, 5, 4, 3.
Je compte vite là.
2.
Non.
1, 0. François, il faut que tu m'en.
Alors, Mallorca.
Alors, Osasuna, je ne le compte pas, mais c'était bon.
Putain. Mallorca,
c'est bon. 3 points pour François. Donc, je redonne les scores. Je redonne les scores.
Désolé, Erwan.
François, 6 points. Jonathan et Erwan, 7 points.
Ouais.
Et Damien, 1 point.
Allez.
Allez, Damien.
Ouais.
Ouais, on va gagner.
Là, j'ai un peu chié dans la colle. Hein.
Qui a inscrit le premier but de la saison en Ligue 1?
Oh, putain, Diallo.
Non.
Oh putain. Oh, pardon.
Ah. Boulaye Dia.
Non.
Reims.
C'était quoi le match?
Memphis.
Non.
Dembélé, c'est bon pour Jonathan.
Bien joué.
Fallait le chercher aussi celui-là.
Alors là, mais j'ai aucune mémoire.
8 points.
On est ensemble
pour
plus sur
Jonathan.
Mais oui, mais
et Erwan.
On avait passé un bon
6
moment.
6 points pour François.
Toujours, quoi.
Et 1 point pour Damien. Qui est leader du championnat argentin.
Oh, bah ça, c'est pour.
River
Plate.
Non.
La gymnasia.
Là, je sais pas du tout. Écoute-moi, j'ai pas
gymnasia.
C'est pas Boca.
Ah, c'est la honte là.
Non, c'est la honte.
Non, Boca, ils sont
deuxièmes.
Ils
sont deuxièmes, ouais.
Il y en a un avant, ils sont pas connus.
La Plata.
Estudiantes.
Il y a Junior dans le
Argentinos Junior.
Là,
j'ai chier dans la
conne. On va pas le compter, c'est fini parce que c'est.
Non, là, c'est scandaleux. Donc, c'est un scandale, c'est même moins 3 points.
Non, oui, je redonne les scores. Jonathan,
t'as pas bougé, t'as pas besoin.
8, François 6, Damien toujours 1. Qui est le meilleur buteur du Milan AC en Serie A?
Piatek.
Non.
Alors Piatek a 4 buts, il y a un autre joueur qui a 4 buts avec un temps de jeu inférieur.
Léo.
Non.
Souza.
Non plus. Alors je vais vous donner un indice. Il a joué au Real Madrid.
Oh putain.
Au Real.
Il a joué
du Milan AC, t'as dit?
Il est au Milan AC, il a joué au Real.
Oh là là.
Ah mais oui. Alors, je vais vous donner un autre indice. Il est défenseur.
Musacho.
Il est défenseur, non.
Théo Hernandez.
Oh, bien joué, Erwan.
Bravo, Erwan.
Celle-ci, elle est
Erwan solide.
Celle-ci, elle est très belle.
Donc,
bien sûr.
9 points pour Jonathan et Erwan, 6 points pour François et un petit point pour Damien. Qui est le meilleur passeur de Leipzig chaque saison en Bundesliga?
Nkunku.
François.
Tu sais, comme je suis fair play.
C'est parce que j'ai
premier. Non, on l'a dit en même temps. Arrête, connerie.
Oui, mais je l'ai mieux dit.
Stop. J'ai cramé là, 23h.
Allez, il reste plus beaucoup de questions.
C'est long, hein.
Qui est le joueur du mois UNFP du mois de novembre en Ligue 1?
Du mois de novembre.
Jeff Adelaide.
Ça c'est bien. Je l'ai vu ça en plus.
Erwan, Jonathan, 10 points. François, 7
gagné,
points.
Bah,
et Damien,
non, il reste
Damien,
encore
ça
un
va être compliqué à mon avis.
Oh. Ouais, il y a des chances. Mais bon. Moi, comme Toulouse,
bon,
quoi.
Damien, c'est endormi.
Qui est le meilleur buteur du FC Séville en Ligue 1?
Ah, Ocampos.
Ocampos, c'est bon.
Ouais. Putain, là,
ça, tu dois le savoir, ça, normalement.
Alors, là, ça va être.
C'est 9-8.
On va faire un kick et crack pour terminer pour que tu puisses gagner, François.
Les arrangements là.
On est à 10 points pour Jonathan, 8 points pour François, 1 point pour Damien. Va falloir me citer, il y a 3 points en jeu, les entraîneurs de Ligue 1. Kick et crack, les entraîneurs de Ligue 1. Allez, c'est parti, Jonathan.
Tourelle,
c'est bon.
Villas-Boas,
c'est bon.
Comboiré,
c'est bon.
En poste ou qui ont
un. On peut
donner les deux.
Ah ouais, bah Casanova alors.
Casanova, c'est bon.
Ah bon, on peut donner
ceux qui sont partis aussi.
Très bien. Christian Gourcuff,
c'est bon. Damien. Qui,
Jobard,
c'est bon. Jonathan. Allez, 5, 4, 3.
Sylvinho.
Sylvinho, c'est bon.
Claude Puel,
c'est bon aussi.
Rudy Garcia,
c'est bon. Allez, Jonathan.
Ghislain Printemps,
c'est bon.
Paolo Souza,
c'est bon.
Christophe Galtier,
c'est bon aussi.
Julien Stéphan,
c'est bon.
David Guillon.
Il en reste beaucoup là encore.
Il en reste pas mal.
Patrick Vieira,
c'est bon. Jonathan. 5, 4, 3.
Merde.
2.
Oh là là,
élimination.
Je cramais là.
Vincent Ognon,
c'est bon. Vincent Ognon.
Allez, Damien. Celui Damien.
Thierry Loret, c'est bon.
Oh.
Allez, faut accélérer.
Et le jeune Damien, 5, là, dites-le.
3.
Celui de Brest. Et toi, je suis en train de réfléchir.
0.
Voilà. Et ben voilà.
Éliminé.
Fait exprès.
Faut que tu m'en cites un dernier.
Lucas Esner, Dallolio.
C'est bon. Point magnifique. Donc victoire de Jonathan Maccardi et Erwan.
Bravo Erwan. T'as choisi le bon cheval. Bravo Erwan. On t'envoie un t-shirt de l'After. Merci. Et bonne fête à toi. Beaucoup. Bonne fête à toi et bravo encore.
Les scores, ouais,
merci Arthur.
Moins, là,
bravo Arthur.
On donne les scores. 4 points pour Damien. 4 points pour Damien, 8 points du coup pour François et 10 points pour Jonathan.
Bravo Arthur pour ton quiz. Bonne fête à toi Arthur, à très bientôt. Demain exceptionnellement pas d'after mais vous réveillonnez avec Julien Cazard et Adrien Aigouin dans l'émission Réveillons à la Cazard avec le meilleur de Julien et d'Adrien. C'est à partir de 21h. L'after revient mercredi à 21h. On vous souhaite une bonne soirée sur RMC et passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Bonne soirée.
RMC 21h minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.